Assalamu alaikum, shalom. Bonjour, bienvenue au Club La Presse de ce jeudi, le 28 septembre 2023. Et nous vous saluons, vous toutes et vous tous qui êtes branchés sur Canal FM ou sur l'une ou l'autre radio partenaire d'Anejo jusqu'à Sokoré, jusqu'à Dapaon, en passant par Atakpamen, Sokoré, Bassar et Baga, Niamtougou. Ou encore, vous qui ne percevez pas l'un ou l'autre canal de par le monde entier. Les techniciens qui réalisent l'émission étaient Kossi Datevi Thomas et Jérôme Kodjo Akucha. Au studio ici, trois confrères à nos côtés, une personne ressource. Commençons par Michel Yao Sarakawabalo Tchadja du journal Ouara les Vainqueurs. Bonjour,
bonjour. Sarakawabalo. Bonjour Cesse.
Tu vas bien?
Ça peut aller.
Ça va aller. Magloa Teko Kenvi de Flambeau des Démocrates, bonjour.
Bonjour Sas Gaou, bonjour chers confrères, bonjour Canal FM.
Et également Elam Kossi Atisogbe de La Nouvelle Tribune, bonjour.
Sas, bonjour, bonjour aux confrères en studio et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment.
Teko, Kossi et Sarakawabalo, vous êtes jeunes, n'est-ce pas?
Oui.
Et vous espérez vivre encore 20 ans, 30 ans, voire 40 ans.
Oui.
N'est-ce pas?
Oui.
Et vous serez vieux. À ce moment-là, vous aurez besoin de bonne volonté pour prendre soin de vous, soit les membres de vos familles ou des associations, n'est-ce pas?
Tout à
fait. N'est-ce pas, Michel?
Oui.
Eh bien, justement, nous avons une association qui est à nos côtés ici. Nos années de vie en avis, représentées par son directeur exécutif, Alpha Kofi Tchekpassi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Sass, et bonjour aux panélistes et à tous les auditeurs.
Notamment aux personnes du troisième âge.
C'est ça.
Pour ne pas dire les vieilles et les vieux.
Oui.
Ça dit nous, dans 20 ans, dans 30 ans, si Dieu nous prête vie.
Oui.
Eh bien,
oui.
Le 1er octobre, ce sera la journée mondiale dédiée aux personnes âgées. Nous allons en parler dans cette émission. Juste que nous partagions cette pensée du jour pour nous inspirer. La pensée dit ceci. Celui qui plante des arbres tout en sachant qu'il ne pourra profiter de leur ombre vient de commencer à comprendre le sens de la vie. Encore une fois, celui qui plante des arbres tout en sachant qu'il ne pourra profiter de leurs ombres vient de commencer à comprendre le sens de la vie. Justement, cette pensée nous incite à poser des actions d'avenir. Hein, non pas seulement dans le sens égoïste d'en profiter aujourd'hui, mais de semer pour les générations à venir. Nous commençons cette émission par ce vu et constaté. Vous avez sans doute écouté hier qu'il y a eu une tentative de coup d'état déjoué au Burkina Faso. Hein, c'était le 26 septembre. Et hier, le gouvernement ou bien le régime de la transition au Burkina a rendu public un communiqué au terme duquel je tire cet extrait. C'est le communiqué qui dit ceci, un extrait. Les acteurs de ce funeste projet de déstabilisation mû par des intérêts aux antipodes de la dynamique de reconquête de notre territoire national et de la souveraineté de notre cher pays. Fin de citation. Or, le capitaine Ibrahim Traoré lui-même a perpétré un coup d'état dans le coup d'état militaire du lieutenant-colonel Henri Damiba. Et ces derniers temps, il y a eu coup d'état au Mali par deux fois, coup d'état au Burkina par deux fois, coup d'état en Guinée, coup d'état au Gabon. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces coups d'état ont bénéficié de la complaisance, voire d'une certaine adhésion populaire d'après ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Or, voilà que le régime de Ibrahim Traoré qualifie les éventuels auteurs de cette tentative de coup d'État d'individus animés par des intérêts
aux antipodes.
Alors, dites-nous, est-ce que certains militaires se sentent investis de la mission divine et se sentent habilités à opérer des coups d'État et pas d'autres? Une minute à chacun. Magloire?
Non, je crois que ça repose carrément le débat qu'on avait déjà fait aux premières heures justement de cette série de coups d'État qui est en cours sur le continent. On l'avait dit, c'est vrai que nous sommes des journalistes et on ne peut prendre acte et condamner ce qu'il y a lieu de condamner, mais sans, au même temps, on ne peut jamais cautionner les coups d'État. Aujourd'hui, à voir ce qui se joue au Burkina, hier jusqu'à ce jour, mais c'est à se demander si c'est l'Église qui se montre finalement de la charité. Parce que hier, peut-être investi, peut-être d'un pouvoir qu'ils se sont donné eux-mêmes pour renverser un pouvoir régulièrement installé, aujourd'hui, ils craignent aussi d'être renversés par un autre qui voudrait vraiment leur faire le même coup. Et donc, ça crée une certaine psychose et ça nous amène à nous poser les bonnes questions. C'est vrai que la passion est dans, l'émotion est dans, on oublie l'essentiel. Dans la démocratie, on ne peut admettre qu'il y ait des coups d'État. Et c'est pour cela que malgré tout, on a toujours tendance à dire qu'il faut revenir à de meilleurs sentiments, reposer les questions ou le débat normalement pour faire les bons diagnostics et trouver les meilleures solutions à nos problèmes. Sinon, les coups d'État ne sont pas les solutions idoines à nos problèmes en Afrique. La preuve, c'est qu'un putschiste qui a peur d'être renversé, ça voudra dire qu'il y a un sérieux problème. Si c'était bon, il allait facilement admettre ça et puis la vie continue.
Merci. Mais Elom Kossi, je le disais, ces coups d'État bénéficient au moins de la complaisance, voire d'une certaine adhésion populaire. Et les chefs de ces régimes transitoires sont les grandes vedettes sur les médias, dans les réseaux, jusqu'à la tribune des Nations Unies, où ils parlent un langage que nous tous nous écoutons et sur lesquels ils sont applaudis. Mais justement, est-ce que cette popularité dont ils semblent bénéficier ne peut pas donner des idées à certains de leurs camarades?
Vous savez, il y a de cela deux semaines, j'étais sur ce plateau le lendemain de la conférence de Dr Ekwegada sur l'analyse des coups d'État en Afrique de l'Ouest, et il avait dit, on l'avait écrit dans notre papier, que les pays à la tête desquels on voit des militaires, c'est pas des pays aussi pacifiques, qu'il risque d'y avoir coup d'État dans des coups d'État, que c'est pas encore fini, parce que la spirale continue. Et ce qui s'est passé au Burkina, la tentative,
ce qui a failli se passer,
c'est-à-dire la tentative de coup d'État est symptomatique de la situation. Et donc, il a cité d'autres pays comme le Niger, qui risque de connaître la même situation. Mm-hmm. Parce qu'il y a Tiani aujourd'hui, mais Tiani est vraiment exposé. Et il a dit qu'à l'allure où vont les choses, il y a d'autres personnes qui voudraient s'y prendre. Donc, en réalité, à travers nos États, il y a des puissances qui s'affrontent. La guerre de puissance au niveau mondial est en train d'agir sur nos États. Et dommage que Jeune Afrique, notre confrère, soit une victime ou un dommage collatéral de cette situation, parce que le journal avait révélé justement qu'il y avait un malaise au sein de l'armée burkinabé. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe au niveau du Burkina confirmé, donc je ne vois pas pourquoi on sanctionne Jeune Afrique. Et donc, il va falloir que dans une certaine mesure, on sache raison garder. Parce que le combat que les gens font contre une situation dont on ne doit pas entamer des relations qu'on a avec d'autres personnes, d'autres
c'est
entités.
C'est intéressant, voilà. Mais je t'arrête dans ton élan et puis tu es avec Michel. Michel, généralement, quand quelqu'un fait un coup d'État et qu'il réussit, il devient héros, comme on le voit en Guinée, au Mali, au Niger, au Burkina et au Gabon. Mais si jamais tu tentes le coup d'État et que tu échoues, tu deviens un traître. Voire même certains l'ont payé très cher en d'autres périodes.
Tu sais, Sass, il faut le dire, on ne peut pas cautionner les coups d'État. Parce que, je l'ai toujours dit, un coup d'État, c'est une mauvaise solution à un vrai problème. Il ne faut pas oser s'aventurer dans ce schéma-là lorsque ça ne va pas. Si ça ne va pas, il vaut mieux réfléchir à trouver autre chose que des raccourcis comme des coups d'État, quoi. Mais ce que tu dis là, nous avons le monopole de coups d'État.
Si tu fais coup d'État, c'est que moi aussi je peux faire coup d'État.
Voilà, si vous avez réussi à renverser X aujourd'hui, demain, rappelez-vous que vous pouvez aussi être
Y victime. Vous renverse aussi.
Voilà, vous êtes victime aussi de cette même situation. Et donc, mais il y a des coups d'État quand même, quand vous écoutez l'opinion, il y a des coups d'État qui semblent passer, hein. Qui semble passer. Quand vous prenez le coup d'État de Ibrahim Traoré, c'est un coup d'État qui a été mieux applaudi que celui de Damiba. Et quand vous prenez le coup d'État au Gabon, il a été mieux applaudi que celui du Niger. Vous voyez, donc quand vous voyez, quand vous regardez, vous observez cela, vous allez vous rendre compte que il y a, comme l'homme le disait, des puissances qui veulent prendre le contrôle de nos pays à travers nos dirigeants. C'est comme ça, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Et donc, la crainte aujourd'hui, c'est que qu'il ne faut pas qu'il y ait chaque jour coup d'État dans certains pays. Merci. Parce que les rumeurs qui courent tous les jours là, si on les transforme en coup d'État, ça veut dire que chaque jour il y a coup d'État. Merci. Et donc, c'est de faire en sorte que vraiment ce spirale là soit.
Donc, pour toi, comme tu l'as dit, les coups d'État sont une mauvaise solution à des problèmes réels.
Voilà.
Merci. Nous continuons à nous incliner. En nous inclinant devant la mémoire de cet aîné, un ami, quelqu'un que personnellement nous avons connu depuis novembre 1988, lorsqu'il animait une conférence publique dans les jardins du Centre culturel américain qui était encore à côté de la maison des Sylvanus Olympio au Grand Marché ici. Il s'agit de Maître Jovi Gali, à qui je tire le chapeau. La nouvelle est tombée hier, il nous a quittés à l'âge encore jeune de 68 ans. Jovi Gali, avocat de son état, défenseur des droits de l'homme, qu'il a fait toute sa vie. Entre autres combats, il avait créé au début des années 90 l'Association pour la promotion de l'état de droit, la PET, et puis par la suite, il avait également mis sur pied l'OPAD, entendez par là, l'Observatoire panafricain pour la démocratie. Il organisait des colloques ici et là. Jovi Gali fut l'un des acteurs clés des mouvements de revendication des droits et des libertés. Il était l'un des animateurs vedettes de la conférence nationale souveraine de 91. Et puis on l'a vu dans main débat au cours de la transition démocratique difficile que le Togo a connue au début des années 90. Et puis il a continué son œuvre comme Flambeau l'écrit. Jovi Gali, homme politique, il a été même ministre des droits de l'homme sous Kofi Go au moment de la transition. C'est un croyant, un croyant chrétien catholique engagé. Il était même théologien à 16 heures, humaniste, un acteur de la théorie de la moralisation de la vie politique au Togo, avec ses cheveux blancs qui faisait sa carte d'identité. C'est tout cela qui nous a quitté hier. Ma gloire, comme Flambeau l'écrit, c'est depuis l'Allemagne que Jovi Gali a tiré la révérence.
Oui, l'information est tombée hier et c'était la grande désolation, et d'ailleurs accompagnée de tristesse pour tous ceux qui l'ont connu et aimé. Vous l'avez dit, c'était un homme très affable, très connu, très humaniste. Et il était un homme politique qui a aussi ce côté très religieux. Il a fait tous les combats pour l'avènement de la démocratie au Togo, ancien ministre de la transition. Pratiquement, c'est une tête pensante pour notre pays qui vient aujourd'hui de passer de l'autre bord de la vie. Aujourd'hui, on ne peut que s'incliner devant sa mémoire et saluer, n'est-ce pas, je dirais, son court mais riche passage sur terre. Et tout ce qu'on demande aux humains que nous sommes, c'est de faire en sorte que lorsque il aura plu au grand Dieu de nous rappeler auprès de lui, que l'humanité retienne de nous ce qui est de bien pour notre communauté, ce que nous avons eu à faire, qui a eu à impacter véritablement notre entourage. Parce que c'est vrai, la tradition est telle que lorsque quelqu'un décède, qu'on oublie ou qu'on mette de côté ce qu'il a fait de mal ou de mauvais. Mais généralement, le bon sens voudrait qu'on soit positif ici bas sur terre. Et c'est ce que je crois M. Jovi Gali a fait, paix à son âme et surtout condoléances à sa famille biologique, politique, religieuse et tous ceux qui l'ont connu.
Merci à Osara Kababalo. Jovi Gali, avocat de son état, défenseur des droits de l'homme qu'il a fait toute sa vie, aussi bien dans ses associations, dans son église que sur la vie politique. Il vient de nous quitter à l'âge encore jeune de 68 ans.
Vraiment que la terre l'histoire légère, parce que c'est un monsieur que nous aussi on a connu dans les années 90, dans la fièvre donc des mouvances démocratiques, où, il passait des conférences, et je l'ai aussi observé en 2010 au cours de la campagne présidentielle, où il était arrivé à Accra, où il animait donc animait un meeting aux côtés de ses frères de l'opposition. Je l'ai écouté et c'est un monsieur qui est vraiment engagé, qui croit en ce qu'il pense. C'est ce que j'ai pu comprendre de lui. Il croit en ce qu'il pense, et il a toujours pensé que il était dans le vrai et qu'il doit continuer dans ce sens. Je pense qu'un homme dans la vie, un homme doit être comme ça, rester ferme face à ses principes de vie. Et il a démontré tout au long de sa vie. Aujourd'hui, il n'est plus. Je pense que c'est il a quand même laisser une autre façon de voir à sa progéniture, et donc nous allons dire simplement que ses œuvres l'accompagnent là où Dieu va l'amener, et que sa famille quand même trouve réconfort auprès du Créateur de nous tous.
Merci. Malheureusement, Jovi Galé ne pourra pas assister au mariage de son fils.
Ah oui.
Son fils devrait se marier incessamment.
Pascal.
Mais comme en Afrique, les morts ne sont jamais morts, peut-être depuis là où il se trouve, il va sur ce mariage. Mais il est encore si pour finir avec toi. Et pas pour que tu finisses. Hein. Comme Michel le disait, Jovi Galé avait son engagement, avait ses convictions. Et au cours des conférences publiques qu'il animait déjà dans les années 88 et 89, Jovi Galé nous disait aux jeunes étudiants que nous étions qu'on ne négocie jamais avec les principes universels. Et ceux qui connaissent Jovi Galé doivent savoir que Jovi Galé, il est resté fidèle à ses principes, à son engagement dans toutes les branches où il a eu à combattre son combat.
Oui, c'est une grosse perte, perd son âme. C'est vrai que hier, dans la soirée, c'est quand même une nouvelle foudroyante, puisque c'est une tête qui s'en va, une nouvelle tête de plus, parce que quand vous faites un peu le bilan avec toutes ces personnalités qui sont parties, Edem Kodjo d'abord, ensuite Yaouvi Agbouibor, maintenant Jovi Galé, avec toute la densité de ce monsieur, passionné de Christ, il faut le dire, passionné de l'Église catholique, il n'arrivait pas à faire une phrase ou deux sans parler de l'Église catholique, de ses principes, de sa vision des choses, et puis un grand juriste, il faut le dire, un très grand juriste, et un homme politique avisé. Je crois que le Togo vient de perdre l'un des meilleurs pions également sur la scène politique. Et quand vous faites un peu le parcours de l'homme, c'est quelqu'un qui est très discret et qui ne prend la parole que lorsque vous lui posez une question. Même s'il fait des conférences publiques, à chaque fois que vous sortez de ces conférences, vous apprenez toujours quelque chose avec ses cheveux blonds qui font très bien sa carte d'identité, il faut le dire. Je crois quand même que oui, le Togo vient de perdre quelqu'un de bien, quelqu'un de dense. Maintenant, la question qu'on se pose avec toutes ces pertes qu'on a et qui s'alignent, qui est en train de reprendre le flambeau? Quand vous prenez Edem Kodjo aujourd'hui, il est parti, mais on n'a pas véritablement quelqu'un qui puisse nous dire qui l'a vécu avec lui, qui peut nous rendre. Bon, à part Cornelius Aïdam, bien sûr, qui a vécu les dernières années avec Edem Kodjo. Quand vous prenez Medioby Agboibo, depuis qu'il est parti, vous avez vu tout ce qui se passe au niveau du cas. Personne n'est à même de vous dire je suis l'héritier de Medioby Agboibo. Quand je dis l'héritier, pas l'héritier par filiation, mais l'héritier en termes de connaissance, de densité, de quelqu'un qui véritablement a pris de lui sur la scène politique et sur la scène universitaire, avec tout ce qu'il a comme expérience en droit de l'homme. Quand vous prenez aujourd'hui Maître Jovi Galé, vraiment, pour le moment, on ne voit personne qui puisse nous dire véritablement que voilà, j'ai appris de ce monsieur et voilà ses mémoires, voilà ce qu'il voulait dire sur des sujets mais qu'il n'a pas pu dire. Je vais vous le dire moi, c'est quand même triste. et on n'a pas aujourd'hui de ces gens-là qui peuvent nous retracer toute l'histoire de ces messieurs, de puissent nous retracer la vie de ces personnalités, qui puissent impacter les générations à venir.
Merci. Attention à nous, la jeunesse, hein. Les acteurs clés de l'histoire contemporaine du Togo sont en train de partir.
Oui.
Et Adema Nyasimbe s'en est allé. Ces derniers temps, Yovi Agbebo, Edem Kodjo, Jovi Gali, Abudou Asuma, Fambare Ouattara Nachaba, Maurice Daoukou Péré et bien d'autres.
Voulez Frititi.
L'ancien président de l'Assemblée aussi.
Abbas Bonfo. Voilà, oui. Malheureusement, beaucoup de ceux-là n'ont laissé aucun mémoire, ne nous ont laissé aucun livre que nous allons parcourir pour les revisiter. Si je dis ça, c'est que c'est pour nous inciter à profiter encore au maximum de ceux qui sont encore là.
Mm-hmm.
Et nous n'allons pas attendre qu'ils meurent aussi avant de venir.
Et surtout que ceux qui sont encore là nous ouvrent les portes, c'est-à-dire commencent à parler d'eux, si c'est des mémoires qu'ils veulent laisser à l'humanité, à la postérité, vraiment les gens sont preneurs. Parce qu'on ne peut pas avoir toute cette densité au niveau de l'intelligence togolaise et puis vraiment les laisser partir de la sorte.
Ah, merci. Il y a une auditrice qui vient de nous corriger. Hein, c'est pour nous dire que l'enfant de Jovi Gali s'est déjà marié il y a une semaine. L'enfant s'est déjà marié au moins il y a deux semaines. Ok. Donc Jovi Gali est allé quand même dans l'au-delà avec ce cadeau que lui a fait son enfant qui s'est marié. Magloire? Pascal, Jovi Gali vient de s'est marié.
Oh, oui.
J'aimerais également être témoin de ton marié, de ton mariage. Je ne suis pas prêt de partir.
Inch'Allah. Inch'Allah, ça vient.
Mais je veux y assister aujourd'hui.
Ça vient, rassurez-vous.
Quand
l'heure de Dieu est la meilleure.
Oh, non, il y a l'heure de Dieu, mais c'est ton heure. Non, à toi, ma gloire, ça vaut également pour était aussi Thomas Datevi derrière le micro et également. Jérôme Kodjo Akucha, je vais commencer par parler de vous publiquement.
pour finir, nous avons parlé du riche parcours de l'homme et chacun, on a été unanime sur ce qu'a été véritablement l'homme au plan politique, religieux. Je crois qu'il serait quand même intéressant de partager cette réaction exclusive de son fils Pascal dont nous parlons tout à l'heure, qui, à mon humble avis, résume à peu près la vie de l'homme dont nous parlons tout à l'heure. Il dit, Jovi Gali s'en est allé rejoindre son créateur dans l'honneur, la dignité et la paix du cœur. Notre papa est parti avec un merveilleux sourire aux lèvres et une espérance plus forte que la mort. Et je crois que on a parlé tout à l'heure de dignité, l'homme qui a travaillé pour la paix, la démocratie. Et
surtout qui est resté fidèle à ses principes, à son engagement, à ses convictions.
Et je crois qu'aujourd'hui, Jovi Gali est un véritable cas d'école auquel nous sommes tous appelés.
Merci à vos confrères Noël Kokou Tadegno qui nous confirme que le fils Jovi Gali s'est effectivement marié. Merci, c'est avec cette chaîne-là de fidélité que le club La Presse va survivre autant. L'année scolaire 2023-2024 qui est déjà à son quatrième jour, nous allons la reparcourir à l'endroit mais également à l'envers. C'est ça la liberté de La Presse. À l'endroit, avec Flambeau qui a la page 3 et nous parle d'une nouvelle marche pour l'école togolaise. Flambeau qui continue avec les 10 priorités de la nouvelle école. 10 priorités repris également par Voir les vainqueurs. Les priorités pour la nouvelle année scolaire 2023-2024 au Togo. Le dialogue qui revient sur l'appel du ministre Kokoroko aux enseignants, les apprenants et leurs parents qui ont également leur message. Et puis le changement également. À l'endroit, c'est l'école qui a recommencé et la nouvelle école, la nouvelle marche de l'école togolaise, les 10 priorités que se fixent et que nous fixe Kokoroko. Maintenant, un peu à l'envers, le changement revient sur cette affaire de gratification spéciale de 3 milliards de francs CFA au profit des parents d'élèves, une promesse que le chef de l'État avait faite il y a un an. Personne n'en parle plus et le changement se demande si cette promesse du chef de l'État est à oublier. Également à l'envers, il y a cette affaire de fermeture provisoire du lycée 2 février pour travaux. Et puis hier, vous avez suivi cette information où le directeur régional de l'enseignement, Lomé Komu, était en visite sur le terrain, a fait une rencontre avec les enseignants. Et puis un enseignant qui a posé une question qu'il voulait savoir. Et par la suite, le DRE, aussitôt arrivé au bureau, a sanctionné l'enseignant volontaire pour le suspendre. Vous le relevez de toutes les missions d'enseignement dans les écoles primaires, dans les écoles publiques et privées. Et puis qu'est-ce qu'il a piqué le DRE quelques instants après? Il prend encore une note pour dire que l'enseignant, cet enseignant, est rétabli. Alors, autre question également à l'envers, pour rappeler à nos autorités, c'est l'article de Canal D qui parle de la vente de denrées alimentaires dans les écoles. La santé des apprenants en danger. Est-ce que toutes les attentions sont accordées aux repas qui sont servis dans les écoles? Et puis, Flambeau également, avec cette information à la page 5. Pendant que les enfants sont à l'école, qu'en est-il de ceux qui sont dans la rue et qui mendient? Mendicité dans les rues de Lomé, vers le seuil de l'intolérable. Ces enfants qui sont dans la rue, qui ne vont pas à l'école et qui mendient, ne sont-ils pas des enfants togolais d'Afrique ou du monde? Qu'est-ce qu'ils deviendront dans 20 ans, dans 30 ans? Et là encore, si à Tiogwe, tu peux prendre les sujets, soit à l'endroit ou bien à l'envers.
Bah d'abord, la rentrée, pour souhaiter une très bonne rentrée à tous les élèves. La rentrée a commencé quand lundi 25 septembre. On en a pour 9 mois. Et bonne chance à toutes et à tous. Et que surtout le succès couronne tous les efforts des élèves, que les examens se passent dans de très bonnes conditions et qu'ils soient assidus, qu'ils puissent véritablement se cultiver, apprendre leurs leçons et que à la fin de l'année, tout le monde puisse réussir. Maintenant, par rapport aux conditions dans lesquelles cette rentrée se déroule, je pense quand même qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, je ne vais pas revenir dessus, beaucoup d'efforts qui ont été faits justement pour que la rentrée se passe dans de très bonnes conditions. Et ce qui se passe au niveau du lycée 2 février avec l'exclusion et la réadmission de l'enseignant qui a voulu en savoir plus sur les raisons, je crois quand même qu'au niveau du DRE, la décision qui a été prise de réadmettre l'enseignant en question est une très bonne décision, parce que ce n'est pas quand même une faute professionnelle, une faute grave d'avoir demandé à savoir ce qui se passait ou d'avoir posé une question. Parce que même quand vous êtes dans une boîte où le patron ou avec ses collaborateurs, les collaborateurs ont le droit de poser des questions pour comprendre certains aspects, certaines choses. Et donc on ne peut pas dire que parce que quelqu'un a voulu en savoir plus par rapport à un sujet ou à poser une question, qu'on va l'exclure. Parce que il me semble que ce soit une faute grave qui a été commise. Donc, cette nouvelle est une très bonne nouvelle, le fait de le réadmettre. Mais par rapport justement à la décision d'exclusion, je ne sais pas si le DRE agit unilatéralement. Si c'est ça, ça veut dire que les DRE sont super puissants. Ça veut dire qu'une décision d'exclusion d'un enseignant doit quand même filtrer par le ministère des enseignements primaires d'abord, avant d'être prise. Et donc, c'est le ministre qui apprécie, en dernier ressort, si la faute est commise, est lourde ou est grave ou pas. Mais le DRE ne peut pas, quand même,
de son propre chef,
sanctionner un enseignant. Si c'est ça, ça veut dire que les DRE sont des super ministres et qu'ils peuvent prendre des décisions qui, forcément, ne sont pas validées par le ministère. Et donc, je crois que, de ce côté-là, il y a quelque chose à revoir sur cette façon de sanctionner ou de décider de la sanction de l'exclusion des enseignants. Donc, si à partir de cet exemple-là, tous les DRE doivent quand même, qui doivent prendre des décisions d'exclusion, doivent faire recours, d'autres décisions doivent faire recours au ministère des enseignements primaires et secondaires. Je pense que ça nous grandirait tous pour que la paix qu'on constate depuis quelques années dans le secteur de l'éducation puisse quand même régner. Parce qu'il y a cela quelques années, vous ne pouvez pas faire de rentrée sans revendication des enseignants. Mais depuis un certain nombre d'années, oui, on constate qu'il y a de la calmie. À chaque rentrée, il y a quand même les choses qui se passent bien. Les gens commencent les cours dans de bonnes conditions, etc. Donc maintenant, pour les enfants qui sont dans la rue, c'est un article de Flambeau que je salue, parce que justement, on ne peut plus s'arrêter au feu rouge maintenant sans constater qu'il y a des enfants qui vous apostrophent en disant que, bon, voilà, ils font des gestes de la main en disant que, bon, ils cherchent quelque chose pour manger. Mais je pense que le phénomène prend de plus en plus d'ampleur. Et il va falloir qu'on puisse véritablement nous trouver une solution à travers le ministère de l'Action sociale, qui quand même est censé réguler la situation pour pour le bien de tous.
Merci Michel. Les 10 priorités, hein, Cocoroco les a exposées. La presse a commencé à parler de ces priorités depuis la semaine dernière.
Oui.
Et puis le dimanche, lui-même s'était invité sur la TVT pour en débattre amplement. L'un des sujets qui suscite le débat depuis hier, c'est la fermeture provisoire du lycée de février pour travaux. Hier même, nous nous demandions dans cette émission pourquoi le ministre n'a pas mis les vacances à profit pour faire les travaux et que ce lycée ouvre tout comme les autres à la rentrée. Alors, nous avons eu des informations complémentaires que les études étaient lancées depuis, mais vous savez, la procédure administrative, quand on commet une étude, il faut une contre-expertise à soumettre d'abord au ministre qui apprécie, qui en informe plutôt, contrairement à notre DRE, le ministre qui en informe la chef du gouvernement, le chef de l'État qui approuve. C'est tout ça qui a mis du temps. Et que ce n'est que maintenant que le lycée est fermé provisoirement, mais les travaux vont y aller, d'autant plus que cela se fait sous l'impulsion du président de la République en personne. Voilà l'élément que je tiens à apporter avant tes commentaires.
Non, je pense que c'est vrai que dans l'opinion, certains se sont posé la question que pourquoi c'est maintenant qu'on doit fermer cette école-là, en tout cas ce lycée. Mais comme tu l'as dit, il arrive que peut-être il y a des procédures administratives et tout avant, peut-être avant d'en arriver à la réfection ou à la reconstruction ou aux réparations avant toute reprise donc des cours dans cet établissement. Et donc le problème ne se pose pas. Mais s'il y a un enseignant qui à un moment donné voulait d'amples informations, je ne vois pas pourquoi le directeur régional pouvait vraiment s'arroger ce droit. Et encore une fois, on sent le carcan qui pèse sur les enseignants, dans tous les enseignants actuellement. Ça dit que nul n'a le droit de chercher à comprendre quoi que ce soit. Ou alors, qu'est-ce qui peut amener donc ce directeur régional à prendre une telle décision? Et même quand il est, par la suite, on apprend qu'il est revenu sur cette décision, et lui-même, si c'est d'une manière hasardeuse, il s'est pris pour sanctionner cet enseignant, mais lui, à son tour, il faut quand même qu'on s'occupe de lui, de ce directeur. Parce que ce n'est pas normal, cette façon de faire là. Il y a la RIACHI, il y a le ministère qui est là, le ministre de l'enseignement qui est là, et que si le directeur là agit de son propre chef, il faut quand même qu'on lui réserve quelque chose. Sinon, ça ne va pas. Ça, l'impression qu'on a dans l'opinion, c'est qu'on n'ouvre même pas des brèches aux enseignants. Ils n'ont pas le droit. C'est un carcan carrément sur eux. C'est pas normal. Je ne pense pas que c'est comme ça que c'est la situation qui prévaut à ce niveau-là. Si c'est ça, il faut quand même que ce directeur soit quand même, qu'on lui remonte les bretelles au moins, pour montrer aux autres que quand il y a des situations, l'enseignant, il a le droit. La liberté d'expression, la parole donnée là, c'est où si c'est pas dans l'enseignement? Et quand on arrive à des situations comme ça, moi je trouve qu'il y a quelque chose à régler à ce niveau-là. Mais parlant des enfants qui écument nos rues, les feux tricolores, je pense que c'est inquiétant ces derniers moments. Et on se pose la question, est-ce qu'on ne va pas arriver à des situations où on sera agressé, carrément? Parce que aujourd'hui, si tu n'as pas bien montré les vitres de ta voiture, je ne sais pas si les gens-là ne peuvent pas te piquer quelque chose dans la voiture.
Et surtout, s'ils grandissent dans la rue, qu'est-ce qu'ils deviendront dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans?
Ils vont grandir. Dieu est grand, ils vont grandir.
Oui, mais en devenant quoi?
Mais non, c'est là où... C'est à ce niveau-là que les autorités compétentes doivent, notamment le ministère de l'Action sociale. Parce que ces enfants-là, qui grandissent dans cette ambiance-là, on se pose la question, quand ils auront 15-20 ans, et s'ils sont toujours dans la rue, bon, qu'est-ce qu'ils vont devenir pour la société? Voilà. Et donc, c'est vrai d'attirer, c'est très bien d'attirer très tôt l'attention des autorités et surtout les organisations de la société civile qui œuvrent dans le sens de protection de l'enfance et tout. C'est l'occasion quand même de prendre le taureau par les cornes pour éviter qu'à long terme qu'on ait des coupeurs de route ou que des gens aient grossi les rangs des djihadistes quelque part.
Merci. Et l'homme, plutôt Magloire, toujours pour le lycée du 2 février. C'est un lycée qui a été construit en 91, il y a une trentaine d'années. Alors, on peut se demander comment ce lycée est dans un tel état aujourd'hui qu'on soit obligé de le fermer pour travaux. Alors, comment est-ce que les études avaient été faites? Les travaux, quels matériaux avaient été utilisés? Qui avait contrôlé les travaux? Parce qu'avant, dans le Pédo, le lycée de Tocoin a été construit dans les années 60. Mais il tient encore. Le collège Saint-Joseph a été construit bien avant l'indépendance. Mais il tient encore. Et puis, je ne sais pas si Kokoroko peut, si l'expertise peut remonter jusqu'au moment même de la construction de ce lycée. Et puis, nous parlons d'Agbalepédo, mais est-ce que tous les autres bâtiments publics qui abritent les services administratifs, est-ce qu'ils sont solides? Est-ce que ces bâtiments ne constituent pas des menaces, aussi bien pour ceux qui y travaillent que pour nous qui y allons pour divers services?
Justement, Sasgaou, c'est toute la pertinence que moi je relève dans cette décision. C'est vrai qu'on peut déplorer que la décision a été prise au moment où la rentrée scolaire a été effective. Mais vous savez, aucun sacrifice ne serait trop grand s'il s'agit de sauvegarder la vie des Togolais. Et on parle quand même des écoliers qui sont l'avenir du pays. Alors, vous avez bien fait de poser la question, mais c'est toute une chaîne. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on en arrive à la fermeture? Ça voudra dire que dans cette chaîne-là, il y a un maillon qui n'a pas véritablement fonctionné. Et si tel est le cas, il faudrait que ceux ou celles qui ont contribué justement à cette défaillance puissent répondre de leurs actes. Parce que nous sommes quand même dans une république. Et les premières autorités même du pays tendent à le dire qu'il faut arrêter de faire dans l'anarchie et le désordre. Et je crois que c'est le moment jamais de situer les uns et les autres par rapport à ce qui s'était réellement passé. Mm-hmm. Parce qu'on ne peut pas fermer les yeux sur ça comme cela, comme si de rien n'était. Ça encourage la médiocrité, ça encourage d'autres à faire comme cela. Alors que dans une république que nous voulons moderne et développée, on ne peut plus accepter ce genre de légèreté. Et cela m'amène également à aborder un autre aspect. Au-delà, n'est-ce pas, de la démarche de l'État, il nous a été dit que plusieurs autorités, notamment des ministres, ont fréquenté cet établissement. Mm-hmm. Alors, si tel est le cas aujourd'hui, on sait que de Lomé à Dapaon, il y a des associations d'anciens élèves qui prennent sur eux de réhabiliter, de retaper proprement des écoles. Mm-hmm. Mais si vous avez fréquenté un établissement et qui parle à force des choses, peut-être l'État n'a pas eu les ressources nécessaires pour retaper, alors que vous avez eu la chance de grandir et au plan social.
D'être passé par là pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui.
Mais qu'est-ce que ça coûte à ces gens-là de se regrouper, ne serait-ce qu'une année en passant à cotiser ou ne serait-ce que se mobiliser pour donner fière allure à cet établissement, au lieu que le gouvernement auquel ils font partie constate l'état de cet établissement pour le fermer alors que la rentrée est déjà effective. Donc, comme je le dis, c'est
merci.
Une
chose. Je sens que tu connais certaines des anciens élèves de ce lycée, mais je ne te fais pas dire plus. Eux-mêmes se reconnaissent.
Justement. Okay, alors on en vient peut-être à notre article. Oui. Au sujet donc des enfants ou de la mendicité dans les rues de Lomé. Vous savez, on semble ignorer cette pratique ou ne pas accorder du crédit au danger que nous courons. La réalité, c'est une bombe à retardement. Et on se demande à la fin, mais est-ce qu'il y a un ministère des Affaires sociales au Togo? Ça paraît anodin.
Il s'appelle ministère de l'Action sociale.
Et d'ailleurs, c'est ma tante qui est là-bas, très je bien. La salue au passage. Mais en réalité, ce n'est pas une question de personne. On pose le débat parce qu'on a l'impression, comme au Togo, on sent ce ministère lorsqu'il y a, comment vous appelez ça, lorsqu'il y a eu orage quelque part, inondation, et c'est en ce moment qu'on voit le ou la ministre qui coiffe ce département, alors que ça ne devrait pas être le cas. Voyez-vous, aujourd'hui, cette activité, la mendicité, c'est, ça abonde beaucoup plus dans les pays, on va dire, du Sahel, au Sénégal. Mais au Sénégal, par exemple, c'est carrément interdit. En Mauritanie, des mesures sont prises par les autorités compétentes pour réguler carrément cette situation. Maintenant, chez nous ici, vous allez voir que même dans les rues, c'est pas que je fais de la fixation, nous faisons de la fixation sur une catégorie de mendiants, mais vous allez voir des petits métis, hein, des Mauritaniens visiblement,
qui sont là. Des petits enfants à peau claire.
À peau claire.
Visiblement. Visiblement.
Parce que je n'ai pas vérifié.
C'est pas la nationalité.
Voilà. Maintenant, et ce que nous voulons dire, c'est que on semble leur donner carte blanche. Parce que juste à côté, ou à quelques mètres, vous allez voir leurs parents blottis dans un cœur quelque part, qui attendent que les enfants opèrent pour leur ramener les
leurs parents.
Voilà. Et ça, des parents même qui se portent très bien, qui ne souffrent d'aucun handicap, peut-être physique, mais on les laisse faire comme cela, alors que sur le plan sécuritaire même, hein, notre pays est exposé. Mais qui sait, parce que nous l'avons dit au plan sociologique, on nous a dit que entre autres raisons qui fécondent justement le terrorisme, il y a la pauvreté. Alors qui vous dit que lorsque vous laissez ces gens opérer de façon continuelle, ces gens-là de mauvaises intentions ne peuvent pas s'incruster dans ce petit monde-là et essayer de les utiliser pour ce qu'ils veulent faire. C'est pour cela que nous voulons attirer l'attention des autorités, que le petit serpent qu'on voit, on ne dit pas de chasser les gens, mais il faut quand même réussir à recadrer ce domaine pour que les enfants innocents que nous voyons aujourd'hui puissent se retourner contre nous demain, parce que à un moment donné, on a fléchi carrément.
C'est une réalité que ce qui constitue le terreau de recrutement des terroristes, c'est la pauvreté, mais également les jeunes qui n'ont aucune formation, ni scolaire, ni professionnelle. C'est parmi ceux-là que les terroristes vont recruter et nous créer ces problèmes. Alors, cette interpellation va naturellement à l'État, par le ministère de l'Action sociale, mais également aux bonnes volontés. C'est pourquoi il faut quand même féliciter ceux qui font un peu dans ce domaine.
Justement,
comme
ça,
SOS Village d'Enfants du Togo, de Lomé de Kara. Il y a également l'ONG Hersa International qui a même une rencontre demain vendredi pour mobiliser des ressources dans ce sens.
Non, il y a également, Michel, parmi les bonnes volontés là, il y en a qui font déjà de bonnes choses sur le terrain, mm-hmm. des associations, des organisations de la société civile. Mais il faut, et je veux qu'on recentre le débat par rapport à ce que disait Magloire. L'action, le ministère de l'Action sociale. C'est, l'heure est arrivée que ce ministère quand même puisse se doter d'une police chargée de veiller à ces enfants-là, comment soit les déguerpir
ou et surtout les prendre en charge.
La prendre en charge, c'est une police là. Pour, parce que quand vous allez dans les carrefours, en tout cas, dans les grands carrefours, où il y a le feu, les feux tricolores, tout ça là, il y a la police qui est là pour
régler la situation.
C'est pas celle-là, on ne parle pas de eux, ils ont leur mission.
Ils ont déjà leur travail.
Il faut des gens, quand même, une police quand même qui descend de temps en temps pour vraiment prier ces enfants-là et leurs parents, surtout tapis, des bonnes dames, quelqu'un qui a peut-être des jumeaux et qui se permet de venir les exposer. Mais c'est bien, elle a des jumeaux, mais les autres en ont aussi. Pourquoi, qu'est-ce qu'il l'autre a venu s'exposer comme ça, et puis elle expose les jumeaux et elle est là pour récolter les recettes. Non, il faut lui dire que ça ne se passe pas comme ça. Pour des raisons de sécurité, on ne peut pas laisser n'importe qui rester et puis déambuler les enfants, l'insécurité même au niveau de ces enfants-là, parce qu'il faut filer entre les véhicules tout le temps. Il faut une police pour vraiment. Et c'est l'action sociale, le ministère de l'Action sociale dont on voit vraiment rarement les actions. Il faut comprendre ce que Magloire dit. Ce ministère, franchement, il faut. Quelqu'un a dit un jour, on était quelque part, quelqu'un dit, mais est-ce que ce ministère-là, c'est pas la peine de le condamner? Parce que
c'est pas le fermer, carrément.
Le fermer, oui, parce que ce n'est pas. Ça dit, entre nous, ce ministère-là, en dehors de quand il y a tempête, il y a les tôles qui sont dans un village, vont de vivre là. Bon, au-delà, dites-nous concrètement.
Merci, merci. Alors, le danger, déjà là, un auditeur nous dit que ces enfants, dont certains grandissent déjà au niveau de la Civito, à Blorehome, déjà l'ancien Sotimes, déjà, ils commencent à voler les portables et autres choses. Dans les voitures, ils cassent les vitres. Donc, le danger est déjà là. Ce que nous disons, ce n'est pas dans 5 ans, c'est dans 10 ans. Le danger est déjà là.
Oui, bon, je crois qu'il faut trouver une solution. Comme mes prédécesseurs l'ont dit, on ne va pas le dire tout le temps. Parce que ça fait un moment que c'est tout perdu. Maintenant, les enfants sont carrément devenus des agents de spécialisés en essuie ou bien en nettoyage de vitres, des pare-brises. Quand vous allez dans les feux tricolores, maintenant, au bout de 10 secondes, vous voyez quelqu'un qui se pointe avec de l'eau sale dans un bidon, là, il dit que bon, il est en train de nettoyer ou d'essuyer votre vitre. Un peu comme si vous lui avez demandé, à la fin, il vous demande de lui envoyer quelque chose. En fait, en réalité, ce genre de comportement fait que, dans la société, les gens vont trouver que c'est facile. Vous comprenez? Quand vous avez un enfant, quand les parents démissionnent, c'est des enfants qui se retrouvent dans la rue, à un moment donné, il faut qu'il y ait un suivi, il y ait quand même des centres d'admission et de réinsertion. Parce qu'il y a des cas comme ça dans beaucoup de pays. Et qu'est-ce que ces pays font? Je pense que le Togo doit aller à l'école de ces pays pour savoir exactement comment est-ce qu'on les intègre. Parce que le ministère de l'Action sociale, c'est vrai comme Michel l'a dit, on ne voit pas beaucoup d'actions. On dit ministère de l'Action sociale, la promotion de la femme et tout, mais bon, moi c'est le 8 mars que j'attends seulement un discours, le 8 mars.
Avec beaucoup de pagnes de défilés.
Et puis c'est fini. Donc on ne sait pas ce qu'on fait réellement dans
la promotion de la femme. Merci voilà beaucoup. Un peu vivement que nos interpellations ne tombent pas des oreilles qui n'entendent pas. De ces enfants, nous continuons avec... le troisième âge avec notre ami Alpha Kofi Tchekpassi. Rebonjour.
Bonjour Sass.
Et nous parlions des personnes âgées dont le 1er octobre sera la journée mondiale. Alors vous êtes de l'ONG Anavi. Un petit mot sur votre ONG, ce que vous faites au bénéfice des personnes âgées.
Merci beaucoup Sass pour la parole. Au fait, à l'entame de l'émission, vous avez présenté un cas. C'est-à-dire qu'une personne âgée qui a vécu ces années, je salue, je m'incline devant la mémoire de cette illustre personnalité,
Jovigali.
Et vous avez aussi dit, il semblerait que c'est l'autre collègue qui dit que son fils disait qu'il est parti le sourire aux lèvres. Mm-hmm. Et bien, c'est ce que nous souhaitons pour toute personne âgée. Mm-hmm. Et de vos commentaires, il y a un constat qui est dégagé. En réalité, que faisons-nous de ces personnes âgées? Quand elles sont encore vivantes, que faisons-nous? Donc, c'est pourquoi Anavi, c'est notre ONG Anavi, c'est une organisation aujourd'hui internationale, parce que ce n'est pas seulement au Togo, nous sommes déjà en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, et nous travaillons aux côtés des autorités donc, pour la promotion et la défense des droits des personnes âgées, et en général pour leur bien-être. Donc, au Togo, ici, nous organisons plusieurs activités. Nous sommes plus focalisés dans le domaine médical, puisque l'un des premiers problèmes des personnes âgées, c'est la santé. Et donc, nous faisons des actions foraines, des dépistages, et à l'encontre donc, de ces personnes. Nous les recevons aussi dans nos centres d'écoute, au niveau de Dijolé, en face de l'EPP à Flavou Gakli, et pour des entretiens. Il y a un psychologue là qui est là et qui les entretient. Et aujourd'hui, ça fait, disons, banalement 33 ans que l'Organisation internationale des Nations Unies a décrété le 1er octobre, Journée internationale des personnes âgées. Et c'est le dimanche prochain. Et déjà, nous commençons les activités de sensibilisation.
Merci. Le thème choisi cette année, c'est tenir les promesses de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour les personnes âgées. Oui. Que pouvons-nous comprendre à travers ce thème?
En réalité, pour être bref, c'est que ce thème appelle à la sensibilisation et à la prise de conscience sur les droits des personnes âgées. L'article 1er de la Déclaration universelle dit que les droits sont pour tout le monde, qu'on soit enfant, petit ou grand. Mais il se fait que dans la jouissance, on constate qu'il y a certaines catégories de personnes qui, elles, ne jouissent pas vraiment de ces droits-là. Je peux citer des exemples ici que nous avons. Aujourd'hui, à l'entame ou bien à l'exemple de phénomène des enfants que nous venons de dénoncer ou de dire, il y a aussi un phénomène aujourd'hui où il y a une violence accrue contre les personnes âgées. Les gens qui aujourd'hui se donnent allègrement à bastonner des personnes âgées comme des enfants. Si vous suivez bien les réseaux sociaux, il y en a de plus en plus sur ces personnes, sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, il y a des catégories de personnes qui ne jouissent pas vraiment de leurs droits. Et donc, il faut sensibiliser. Il faut tirer l'attention des autorités sur ce phénomène-là pour que ces personnes âgées aussi soient protégées. Parce qu'elles font partie des personnes vulnérables qu'il faut protéger. Donc, voilà, c'est pourquoi le thème aujourd'hui est centré sur les droits des personnes âgées.
Alors justement, il semble, et les gens disent que en Afrique, dans nos sociétés, les personnes âgées avaient leur place. Et qu'en est-il exactement aujourd'hui au Togo, aujourd'hui, en 2023, est l'état des personnes âgées
dans notre pays? Le constat est un peu amer. Le constat est un peu amer. Et ces personnes âgées ne sont plus respectées comme avant. Mm-hmm. Il y a plusieurs raisons. Peut-être d'autres diront que c'est la pauvreté. D'autres même vont jusqu'à dire même que c'est la responsabilité même. On évoque une certaine responsabilité de ces personnes elles-mêmes en disant que voilà, elles n'ont pas suivre ou bien elles n'ont pas bien gérer leurs responsabilités envers leurs enfants, tout ça là. C'est vrai, on ne refuse pas. Mais est-il que dans la société d'aujourd'hui, qui est de plus en plus individualiste et capitaliste, et ça fait que psychologiquement, sans le vouloir, lorsque vous n'avez plus la force de produire, vous êtes un peu déclassé. Et donc, on ne voit que ceux qui ont encore la force de produire. Donc, ça fait que psychologiquement, lorsque les personnes âgées arrivent à l'âge là, on ne porte plus vraiment attention à eux. Vous êtes un papa, vous faites tout, vous vous saignez pour envoyer vos enfants à l'école, vous privez des choses, mais quand ces enfants grandissent, des fois, ils vous abandonnent.
Ils vous oublient superbement.
Ils vous oublient. Alors qu'avant, en Afrique, ce n'était pas le cas. Donc, il y a un problème de société que nous devons résoudre. Et ce n'est pas seulement nous, les associations, y compris l'État, y compris vous, les journalistes, pour attirer l'attention de la communauté nationale sur ce fait-là. Pour dire tout simplement, comme on a l'habitude de le dire, retournons à nos valeurs. Parce que là, ça nous profite plus.
Merci. Concrètement et en une minute, qu'est-ce que Anavi pense faire pour marquer cette journée?
Cette journée, déjà le samedi, en prélude à ça, nous aurons une activité sportive. Mm-hmm. Parce que c'est la santé.
Le premier samedi du mois que le gouvernement nous invite à faire un peu de sport.
Oui, mais celui-là, c'est le 30, le samedi prochain.
Oui.
Voilà, pour marquer la journée. Et nous aurons une activité sportive à la plage, avec les personnes âgées, juste pour faire des activités, jouer aussi, ceux qui peuvent le faire, et faire des différents jeux. Et maintenant, débattre, animer une causerie débat sur justement le thème qui a été choisi cette année, pour que les personnes âgées, elles aussi, ne soient pas en marge. Il ne s'agit pas pour nous de parler au nom des personnes âgées. Nous voulons faire avec elles-mêmes. Il faut que les personnes âgées, surtout en Afrique francophone, se réveillent. Parce que dans d'autres pays, comme dans les pays anglophones, c'est les personnes âgées elles-mêmes qui prennent le lead pour défendre leurs droits.
Voilà. Donc, merci à toi, Alpha Kofi Tchekpassi. Il y a beaucoup de choses sûrement que vous avez au programme.
Oui, bien sûr.
Mais pour en savoir davantage, comment vous contacter?
Oui, nous sommes à l'ONG Anavi. Il y a le 90 65 37 18. Nous sommes au niveau de Aflao Gakli, en face de l'école EPP Aflao Gakli. Je voudrais quand même profiter de l'occasion pour faire un coup d'œil aux autorités. On a parlé tout à l'heure du ministère de l'action sociale. C'est justement...
Que nous ne voyons pas beaucoup, que nous ne sentons pas beaucoup.
Justement, c'est notre ministère tutelle, c'est le ministère aussi des personnes âgées. Et c'est vrai, quand le problème est vraiment vaste et grand, les efforts, des fois, sont un peu diffus. C'est vrai. Je ne dis pas qu'ils ne font rien. Ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Concernant nous, les personnels, au fait, les personnes âgées. Mais nous les exhortons à faire encore plus. Comme on vient de le dire, lorsqu'on ne sent pas, ça donne comme l'impression que vous ne faites rien. Merci, donc il faut plus d'action. Nous voulons aussi dire merci à INAM, au fait. INAM, c'est vrai, c'est une structure de l'État, mais qui jette quand même un regard sur la situation des personnes âgées et qui organise des fois, avec nous et d'autres associations, des activités pour
notamment l'université du troisième âge.
Et nous les exhortons vraiment à faire encore plus.
Merci. Nous sommes jeunes aujourd'hui, mais autant nous nous occupons de nos parents aujourd'hui, demain nos enfants s'occuperont de nous. Alors, si nous négligeons nos parents aujourd'hui, ne soyons pas surpris que nos enfants nous tournent le dos. Or, quand Michel sera obligé de marcher le dos courbé avec une canne, s'il se retrouve là-bas seul avec sa femme, si Dieu leur prête vie et que les enfants ne viennent pas leur dire bonjour, est-ce qu'il va aimer, Michel? Tu vas aimer ça?
Non.
Très bien. Donc, commençons par faire en sorte que nos parents nous aiment. Mais nous avons beaucoup parlé des enfants de la rue. Nous avons beaucoup interpellé le ministère, le gouvernement. C'est de bonne guerre. mais également de bonne volonté, hein, qui s'occupe un peu de ces enfants-là. Nous avons parlé de SOS Village
d'enfants.
Nous avons parlé des ONG comme Helsa International. Il y a également Adoumacessé, le foyer appel. C'est l'association pour la protection et la promotion de l'enfance à Lomé qui recueille certains de ces enfants de la rue que le foyer appel héberge, dont il finance la scolarisation jusqu'à la formation. Bon, merci à toutes ces bonnes volontés et surtout à ceux et à celles qui viendront grossir leur rang. Il est 11h57 et l'encore, je voudrais quand même qu'on parle un peu de ton article là. Qu'est-ce que les Togolais pensent des banques qui sont installées chez nous? C'est pour paraphraser un article de ton journal.
Bon, vous savez, les plaintes vis-à-vis de la clientèle, vis-à-vis des banques se font de plus en plus insistantes. Sur les réseaux sociaux, vous avez toujours de ces commentaires par rapport à l'expérience d'un client qui a mal tourné dans une banque. Et à un moment donné, au niveau du gouvernement, on a commencé à parler beaucoup plus de l'observatoire de la qualité des services financiers. Je pense que c'est un truc important aujourd'hui qui nous permet de savoir exactement où de mettre quand même les banques au pas en ce qui concerne l'amélioration de la qualité du client ou de l'accueil, etc., ou des services. Qu'est-ce qui se passe dans le papier? Vous avez constaté qu'on a mis beaucoup de choses par rapport justement aux causes et aux plaintes des clients. Ce qu'ils réclament, et comment on les traite, etc. Et comme l'ARCEP le fait dans le domaine des télécommunications, il y a des clients qui sont carrément, ou des usagers de banque qui demandent carrément qu'il y ait un service comme ça au niveau des banques. Parce que les gens se disent que, mais dans des banques, on leur parle comme s'ils étaient, voilà, c'est eux plutôt qui viennent rendre service à la banque, alors que la banque est là pour eux, d'abord, puisque c'est eux qui mettent leurs économies dans les comptes pour que la banque tourne. Et donc, en réalité, dans le papier, vous avez beaucoup d'informations avec des graphiques, etc. Je précise que c'est une étude qui a été réalisée. Et donc, je recommande cela à tous ceux qui sont dans le domaine économique et financier.
Merci. Beaucoup de clients qui se plaignent du comportement discourtois, hautain et désagréable de certains agents. En tout cas, on va lire l'article, notamment cette étude réalisée par Capi Consult, dont les résultats parlent d'eux-mêmes. Nous parlions tantôt du gouvernement par le biais de l'action sociale qu'on ne voit pas beaucoup, mais ce n'est pas que le gouvernement ne fait pas. La preuve, cette semaine, on a vu cette convention de financement entre la Banque mondiale et le Togo à hauteur de 100 milliards de francs CFA. Voilà, les vainqueurs nous en parlent. C'est ce montant de 100 milliards de CFA dont une partie va au profit d'un programme d'appui aux politiques de développement durable et inclusif. La deuxième partie qui acte un financement additionnel au profit du programme de résilience du système alimentaire ouest-africain. L'article est à la page 2 de Ouara les vainqueurs, lequel Ouara nous parle aussi de la construction des infrastructures de base, des projets importants pour améliorer le cadre de vie. Deux projets ici de 28 milliards de CFA en cours de réalisation dans les quartiers défavorisés de Lomé, qui portent sur l'assainissement et le bitumage d'un tronçon de 14,34 km de rue urbaine. Et puis la seconde, à construire un système de drainage des eaux pluviales dans la zone Oba, face du Toko là-bas. Si Ouara les vainqueurs et d'autres journaux parlent de ces projets, c'est qu'on attend du gouvernement que les 100 milliards de la Banque mondiale soient vraiment investis dans les projets que le gouvernement a choisis et qu'à l'exécution, les travaux soient bien faits pour qu'on ne soit pas à reconstruire un lycée qui n'a que 30 ans d'âge, Michel.
Ah oui, ou bien à reprendre le bitumage de cette rue après... Et 6 ou 7 ans seulement. Mm-hmm. Ouais, donc, c'est des projets très importants initiés par le gouvernement et les attentes sont énormes pour bénéficier donc des retombées du fonctionnement de ces projets-là. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit par rapport à la zone au bas où vous avez le problème. Les problèmes d'assainissement se posent avec récurrence et il faut quand même que à la fin de ces travaux là que les quartiers quand même puissent être bien mieux assainis et donc préserver donc un cadre de vie décent pour les populations.
Merci. À propos d'assainissement, le club de la presse ne peut pas ne pas faire un coucou à Papa Sibiti avec le problème d'inondation à Djidjolé derrière la maison d'Adebayo. Vivement que hein, on se pend. Papa Sibiti, c'est quelqu'un du troisième âge. Il a besoin au moins que l'État l'aide à sécuriser la maison qu'il avait construite, n'est-ce pas,
Alpha? Oui, effectivement. Merci. Effectivement.
Il est midi passé de 2 minutes. Nous suspendons nos échanges, le temps d'un clin d'œil à nos partenaires. Puis nous rebondissons avec vous sur les deux numéros que vous connaissez, le 22-21-33-74, le 91-36-63-75. Nous avons rendu hommage à Jovi Gali qui nous a quittés. Nous avons parlé de la crainte de spirale de coup d'État chez nous en Afrique, avec ce qui a failli se passer au Burkina. Nous avons parlé des enfants de la rue, nous avons parlé des personnes du troisième âge. Nous sommes revenus sur la rentrée scolaire que nous avons reparcourue à l'endroit et à l'envers. Nous avons évoqué quelques sujets de proximité. À présent, la parole est à vous. Premier auditeur, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui.
C'est Johannes.
Comme là?
Oui.
Oui, allons-y.
Mais tu sais, Johannes non plus, mais ce n'est pas un prénom important non plus. Hein.
Ah, je préfère comme là. Comme là, okay. Ça fait Kodjo, Teko, Kossi, Sarah Kowabalo, ça fait plus Togolais.
Sinon, juste pour vous dire que je suis quand même en avance sur vous. J'ai deux prénoms locaux.
Uh-huh.
Ou bien deux prénoms locaux plutôt.
Oui.
Ok. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec votre vieux constaté. Il y a coup d'État dans coup d'État, comme on peut le dire vulgairement. Quand on prend le Burkina, la Guinée, ceux qui sont ces militaires qui ont pris le pouvoir aujourd'hui, il y a de fortes raisons que ceux-là soient menacés par des gens qui, dans l'ombre, sont poussés par des forces étrangères, surtout les forces colonialistes. Parce que lorsqu'ils sont venus, ces messieurs, nous avons vu leurs actes et leurs discours. Ce sont des discours anti-impérialistes. Donc on ne peut pas comparer des gens qui, aujourd'hui, je me dis que c'est Traoré, je pense, du Burkina, il a tout à fait raison de dire tout ce qu'il a dit. Parce que d'autres Arabes à sa place, je ne pense pas qu'ils seraient venus forcément.
Mais ce que nous craignons, s'ils sont arrivés au pouvoir par des coups d'État, est-ce qu'ils ne peuvent pas être victimes d'autres coups d'État? Les motivations, on ne se prononce pas là-dessus.
Oui, ils peuvent en être victimes. Sauf okay. Que vous avez aussi insisté sur... Parce qu'il a condamné en disant, en employant des termes. Et c'est sur ces termes que vous êtes revenu. Moi, oui. Je comprends qu'il est condamné en ces termes-là.
Mm-hmm.
Et le deuxième point, concernant Maître Jovi Gali, je me dis, il ne suffit pas que ces messieurs aient des héritiers politiques, des héritiers idéologiques, mais il faut aussi qu'ils aient l'occasion, qu'ils aient pu avoir l'occasion de donner au pays tout ce qu'ils avaient. Mais dans un régime où... Oui, un instant. Dans un régime où il n'y a qu'un parti qui confisque le pouvoir, c'est difficile à ces éminentes personnes de donner ce qu'ils ont au pays.
À ce niveau-là, merci. Vous pouvez avoir raison. Les Edem Kodjo, les Agbo Ibo, les Jovi Gali, quel est leur bilan? Qu'est-ce qu'ils ont pu réussir à faire? Est-ce que c'est leur faute ou bien la faute à d'autres forces qui ne leur ont pas permis de prospérer? Deuxième auditeur, bonjour.
Oui, Sos, bonjour.
Oui.
Comment allez-vous?
Ah, nous rendons grâce à Dieu. Rami Senghor.
Ça va. Il y a un phénomène qui se passe. Aujourd'hui, ça fait la
troisième. C'est plutôt Patrick. Allô,
non, c'est Karim.
Karim, ah ok.
Oui. Aujourd'hui, ça fait la troisième jour de la rentrée.
Le troisième jour.
J'étais à Notien, la préfecture de Haro.
Oui.
Et devant moi, les élèves, ils sont sortis de classe. Je ne sais pas, ils sont sortis vers 13h. Et il y avait 3 types qui détenaient Vaudi dans leurs mains.
Quoi?
Vaudi, l'alcool. 18%, ils ont rentré dans une boutique P7 devant moi.
Les élèves, c'était de l'école primaire ou bien collège ou lycée?
Non, c'est au lycée.
Uh-huh.
Quand je me suis approché, je demande, aujourd'hui, ça fait la troisième jour de la rentrée, vous ne commencez pas à comporter comme ça. Ils ont commencé par m'insulter. C'est à la préfecture de Hao. On demande pardon au gouvernement. Ce boisson, des boissons fréquentées, là, ils n'ont qu'à interdire ça. Ça détruit la jeunesse.
Merci. Tout même. Ces boissons hyper énergétiques ou bien énergiques qui abondent un peu partout et que les jeunes, dont les jeunes raffolent.
Oui,
ça. Merci.
Et le deuxième sujet,
oui.
Commissariat d'Agbalpédo. Les gens qui sont là-bas, les policiers qui sont là-bas, ils souffrent tôt. Il pleut même, l'eau tombe dans le bâtiment.
Oui.
Ils ont leur famille à la maison.
Oui.
On a qu'à les faire quitter là-bas. Allez-y voir le bâtiment s'effondrer partout. Mais les policiers sont dedans, ils travaillent encore.
Merci. Ça fait la deuxième fois que vous soulevez ce problème-là. L'état du commissariat de police qui ne se prête pas à ce service. Monsieur le directeur de la police nationale, monsieur le nouveau ministre de la Sécurité, s'il vous plaît, envoyez des équipes, regardez l'état de ce commissariat et puis visitez un peu tous les commissariats du pays. Hein, ceux et les dames et les hommes qui travaillent à ces endroits méritent quand même un minimum de confort pour nous rendre service. Troisième auditeur, bonjour. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, c'est monsieur?
C'est Pacpo de Zanguera.
Pacpo de Zanguera.
Oui.
Eh bien, nous vous écoutons.
Oui, merci, M. Sass. Nous avons appris les médias la fermeture provisoire du 12 février. Et nous aimerions savoir s'il est possible de contribuer au ministère à évoluer tout entier. Oui,
nous vous écoutons mal. Nous ne pouvons pas vous répondre si on n'écoute pas très bien.
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, M. Sass.
Oui.
C'est Corsivi depuis Zanguera.
Corsivi depuis Zanguera.
Oui.
Eh bien, nous écoutons.
Je voulais vous relater un fait qui s'est passé hier au CMS Zanguera.
Oui.
Et la fille de mon voisin est tombée malade en revenant de l'école.
Mm-hmm.
Je l'ai amenée à l'hôpital là-bas. Comme garantie, on m'a demandé d'aller acheter seringues et carnets.
Mm-hmm.
Puis j'ai déposé mon portable chez le caissier et puis il m'a fait les formalités. Je suis allé à la caisse prendre les produits qu'on nous a écrits.
Mm-hmm.
Maintenant, j'arrive, celle qui va prendre soin à l'enfant, il n'y a personne. C'est une seule personne qui est là, elle me dit qu'elle est occupée. Je dis, voilà que la fille est dans l'état critique. Il faut qu'on se dépêche pour la voir, pour voir comment ça va se faire.
Mm-hmm.
Et c'est de l'ordre qu'elle est là-bas jusqu'à un moment donné, j'étais fatigué. Ils allaient voir l'assistant, lui supplier afin qu'il puisse sortir pour prendre soin à l'enfant. Alors qu'on nous a demandé les produits, on a acheté. Mm-hmm. Maintenant, ceux qui nous ont prêté les produits, ils se sont déshabillés pour rentrer à la maison.
Ils vous ont laissé là-bas, ils sont partis?
Ils sont partis avant que l'assistant. Je suis allé chez l'assistant lui demander. On nous a demandé d'acheter, on a acheté. Maintenant, pourquoi tarder avant de voir la patiente?
Et vous dites que ça s'est passé au CMS de Zanguera?
Au CMS de Zanguera, hier soir, au-delà de 19h.
Bon, votre fille, elle est d'une école publique ou privée?
Elle est de lycée de Zanguera.
Donc publique?
Oui, publique.
Donc en principe, elle devait bénéficier de school assure?
Oui, comme c'est vrai, le soir. Nous-mêmes, on a acheté les produits.
Mais est-ce que l'école l'a référé vers le CMS? Vous aviez eu un papier de l'école pour attester qu'elle était malade?
Non. Elle est sortie de l'école le soir, l'après-midi le soir.
Uh-huh.
Donc, c'est jusqu'à 18h45, comme ça, elle est rentrée à la maison.
Oui.
Donc, c'est arrivé à la maison qu'elle est tombée évanouie.
Ah, ok.
Donc, c'est de là, moi, j'ai pris ma moto, je l'ai amenée.
Uh-huh.
Pour qu'on puisse prendre le soin. Voilà qu'on nous a tardé. C'est concernant la couille qui n'est pas bonne.
Okay. Et finalement, on lui a fait le soin, la fille s'est rétablie?
Oui, on lui a fait le soin, on est ressorti vers 22h.
Merci. Donc, c'est le problème de mauvais accueil.
Oui,
aujourd'hui, on a parlé des banques.
Oui.
Notre ami nous parle de mauvais accueil dans les centres hospitaliers. Je rappelle l'article de Chronique de la semaine, il y a quelques jours, qui parlait de mauvais accueil, de mauvaises pratiques dans tous les services publics. Jusqu'à la présidence de la République. C'est des sujets vraiment qui devraient nous interpeller. Merci pour ce témoignage, l'ami.
Ok, merci. Ça.
L'auditeur suivant.
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bon, parce comment ça va?
Oui.
Maintenant, l'évangéliste, on va arriver.
Mm-hmm.
Bon, parce bonjour.
Oui, alors, bonjour.
Je pense que vous allez me laisser parler un peu.
Non, vous avez une minute. Il y a d'autres qui attendent aussi.
Je voudrais m'intéresser du coup d'État. Non, ça veut dire du discours que le président Faure a trouvé après sur le plateau de la thèse du tout. Bon, peut-être que vous allez me dire, mais c'est pas Paul Retoubé.
C'était Robert Doucet.
Mais vous devez savoir que ce discours-là, le président ne doit pas dire qu'il ne connaît pas ou bien ne sait pas ce qu'il a dit.
Mm-hmm.
Donc, vous savez, c'est vrai, Ils ont dit qu'ils sont fatigués de la prise. Mais nous, les Togolais, nous ne sommes pas fatigués de la situation dont le trajet est en train de traverser. Deuxième point, ce qui est important, M. Sass et les journalistes, j'interpelle sur les autorités de la nation togolaise avec ce discours, il veut être toujours un appui. L'appui, c'est quoi? C'est la population. Et aujourd'hui, le Niger a pu dominer la France, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, c'est la population. Vous voyez, non? Ce n'est pas l'armée. Mais l'armée ne peut rien faire si la population n'est pas dedans. Donc, je suis en train d'interpeller. Parce que si vous dites que nous sommes fatigués, attendons-nous aussi à des Occidentaux qui peuvent apprendre, qui peuvent quand même faire quelque chose. Mais il faut que la population soit la plus, soit derrière l'État congolais. Je voudrais vraiment inviter à cela. Et prenez soin de cette population-là. Aujourd'hui, c'est la paix de partout. C'est moi un pays, c'est-à-dire, on ne parle pas. Je crois que dans toutes les régions, c'est là-bas qu'il y a un roi. Mais c'est-à-dire qu'il faut que vous m'accompagnez que Dieu est là. Merci beaucoup.
Je vous en prie, l'ami Senghor. Un autre auditeur. Allô? Il va être le dernier ou bien le dernier ou la dernière?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, monsieur Sass, bonjour.
Oui.
Et pour l'homme aux cheveux blancs, on ne peut que dire qu'il repose dans la paix du Seigneur.
Amen.
Il a fait pour lui aussi. Donc il faut que les gens s'expriment de ses exemples.
Mm-hmm.
Et pour ce qui s'est passé au pays des hommes intègres, ça, vous savez que quand il y a eu coup d'État encore dans ces pays, qui serait la première personne à applaudir? C'est Macron. Il faut que les Africains sachent que.
Mais l'ami Sylvain, n'est-ce pas trop facile de rejeter tous les torts sur la France alors que nous sommes quand même indépendants il y a 63 ans, que nous sommes aux affaires nous-mêmes?
Il faut que les Africains sachent qu'ils se prennent en charge.
Mais pourquoi certains d'entre nous ne voient que la France derrière tous nos problèmes en Afrique?
Parce que selon son comportement, franchement, ça a trop duré.
Et nous-mêmes, nous ne sommes en rien responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui?
Parce que nous aussi, nous sommes responsables en partie.
Ok.
C'est pourquoi on doit savoir que l'état des coups d'État sont revenus.
Merci beaucoup. Eh bien, merci aux auditeurs qui ont co-animé avec nous. Ok. Traditionnel tour de table, une minute à chacun pour réaction à l'endroit d'un auditeur ou bien précision d'une idée. Teko Magloire?
Je crois que moi je vais beaucoup plus m'apesantir sur le social. On en a suffisamment fait cas. Et aujourd'hui, ce qu'on peut ajouter, c'est que, comme l'invité l'a dit, l'État fait de son mieux. Hein. Maintenant, il faut quand même que toutes les entités, que ce soit privées, parapublic, puisse s'inscrire dans cette dynamique-là pour aider l'État à accentuer beaucoup plus sa politique dans le domaine du social. Parce que à la fin, on sent que ce sont les ministres qui sont inactifs, alors qu'en réalité, peut-être, ils n'ont pas tous les moyens de dérouler leur agenda conformément à leur cahier de charge. Mm-hmm. Et donc, c'est un appel que nous voulons personnellement lancer à tous les acteurs qui sont dans le domaine de l'humanitaire de redoubler d'ardeur pour être beaucoup plus présents sur le plan social. Et je m'en vais là et saluer une association ABPEP, qui est l'association pour le bien-être des écoliers, ou des élèves plutôt, qui a fait un don de kit scolaire aux élèves de l'EPP Badinopé. Vous devez avoir une idée, c'est dans la préfecture de Vaud. Mm-hmm. Et c'est un geste assez salutaire qu'il faut encourager. Et on l'a dit, à part cette association, il y a d'autres aussi qui sont dans le domaine social, mais qui ne bénéficient pas d'un accompagnement aussi que ça de la part de l'État, mais qui essaient de faire de leur mieux. Mm-hmm. Par exemple, quand on prend les structures, les entités qui font les orphelins.
Oui, la prise en charge
la des prise orphelins. En charge des orphelins. Je peux vous dire que ces gens-là font un travail assez merveilleux. Mais vous allez être surpris quand on vous dit derrière qu'ils ne bénéficient de rien comme accompagnement de la part de l'État. Moi, je suis choqué. Comme on l'a dit, on ne peut pas vivre dans la rue.
C'est encore l'occasion également que la bonne volonté aille mobiliser des ressources auprès des privés, des sociétés, des fondations ailleurs. Merci beaucoup. Et là encore, si, Ati Tchogwe.
Par rapport à ce que les auditeurs viennent de dire, il y a quelqu'un qui a appelé tout à l'heure, lui avait posé la question de savoir pourquoi souvent les gens accusent la France. Bon, j'ai envie de poser cette question parce que depuis, on constate qu'il y a cette situation qui a cours. Mais c'est un peu comme si toutes les fois que les gens appellent ou bien toutes les fois qu'il y a un débat, on fait juste un micmac et on dit que bon, c'est la France. Bon, moi, j'ai envie de nous poser une question et de nous exhorter un devoir de maison. D'ici jeudi, on va répondre. Et est-ce que la France n'a jamais rien fait de bien depuis les années 60 à nos jours, depuis les indépendances? C'est vrai qu'on a suffisamment égrené le chapelet de tout ce qu'il y a comme situation en cours aujourd'hui. Mais de 60 à ce jour, est-ce que la France n'a jamais fait quelque chose de bien dans nos pays? Je crois qu'on doit prendre ni qu'une feuille. Chacun doit pouvoir se rappeler depuis les années d'indépendance à ce jour pour qu'on énumère.
Au moins à partir de sa naissance et de son état de conscience.
Voilà, même si c'est deux points positifs que nous puissions les citer, s'il vous plaît.
Merci. Ça vaut carton.
Oui, ça vaut carton.
Yao, Sarah Kawabalo, Tchaja, Michel.
Oui, moi je voulais faire une proposition.
Vous savez, quand on dit ministère de l'Action sociale, on voit trop la main de l'État. On pense que bon, tout doit être, c'est l'État. Est-ce qu'on ne peut pas créer une direction de la solidarité nationale? Une direction ou une agence nationale de la solidarité?
Oui, il y a une telle agence déjà, hein? L'agence nationale de solidarité.
Et qui fonctionne comment? Qui est... Mais je ne sais pas, hein? Je ne sais pas. Parce que pour montrer à la population que n'importe qui peut contribuer, parce que c'est une question de solidarité. Quand il y a inondation, quand il y a tornade quelque part où des tôles s'en vont et que on doit aider une population, une famille, ce n'est pas l'État seul. Quelqu'un, les gens de bonne volonté ont des moyens, mais ils peuvent venir mettre cela dans cette dans ce service là et maintenant on va voir comment aider les sinistrés et autres. Parce que action sociale, généralement, par ces temps qui courent, ça ne prend pas bien. Il faut changer, non. Il faut changer, non, à mon avis. Et la solidarité sonne bien dans les oreilles des gens pour que des bonnes volontés puissent appuyer l'État dans ce sens-là, quoi.
Voilà. Merci. Notre ami, Pasteur Edo, qui confirme, il y a déjà une agence de solidarité nationale. Seulement, elle est sur papier. On ne la voit pas beaucoup dans les actions.
Moi, je veux qu'on la rende opérationnelle. Mm-hmm. Voilà.
La tante de Magloire, Madame Anakoma, va savoir. Madame Apedo, Anakoma, va savoir ce qu'il lui reste à faire. Alpha Kofi Tchekpasi, à l'endroit de nos personnes âgées.
Oui, je ne peux que les souhaiter bonne fête et bon courage. Parce que nous savons ce qu'elles vivent, ces personnes âgées. Et justement, lorsqu'on parle un peu de la solidarité, ou du moins en faisant référence au ministère de l'Action sociale, nous savons un peu aussi ce qui se passe. C'est que tout le temps, c'est le reflet, c'est que on n'a pas des moyens. On n'a pas des moyens. Mais j'ai lu à quelque part un document où, je ne sais pas si c'est en France, où il y a une journée nationale de solidarité. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que lors de cette journée-là, tout le monde, c'est-à-dire que donne quelque chose. Pour les fonctionnaires, c'est un prélèvement à la source. Même si c'est 1000 francs ou bien quelque chose, mais c'est par an, une journée nationale. Je crois que ça aussi, c'est des pistes qui peuvent quand même aider à renflouer cette caisse de service de solidarité ou bien de l'action sociale pour vraiment lui permettre de faire ces choses.
Merci. Dans ce sens, alors, je nous interpelle tous. Pour ceux dont les parents vivent encore, combien sommes-nous à vivre avec nos parents chez nous, à la maison? Combien vivent avec leurs parents à la maison?
On pense même à...
Ah, ou bien, combien de fois rendons-nous visite à nos parents dans leur village, ou bien dans la maison que nous leur avons construite?
C'est ça.
Si on commence comme ça par nos parents, on peut aller à nos tantes, à nos oncles et à nos voisins âgés.
Encore, on fait croire à certains, par naïveté, que leurs parents sont source de leur malheur.
Oui.
Et des gens haïssent leurs parents comme cela.
À ceux-là, Dieu leur pardonne, car ils savent pas ce qu'ils font. C'est fini pour aujourd'hui. Demain, vendredi, le club La Presse va se délocaliser à Agbodrafort, dans la commune Lac 3. Nous allons revisiter les travaux de protection de la côte que fait Waka, le projet Waka. Et surtout, ces derniers temps, il y a la haute mer. Quels sont les comportements que nous devons adopter vis-à-vis des ouvrages que Waka réalise et vis-à-vis de ces mouvements dus aux intempéries? Nous aurons au plateau demain l'Agence nationale de la météorologie. Nous aurons également l'Agence nationale de la protection civile aux côtés de Waka. En tout cas, demain de 11h à 12h30, vous serez bien suivis. Bon appétit, à demain donc.
Canal FM.
O café tá tão muito né, é para ele ter sempre o céu. Como o café não é mal, mas com a senti voante tão mãe. Encore mãe. On peut mais nous l'envoyer aller, même si on rencontre des problèmes. Pour faire l'amour, c'est pas facile, sans bien que c'est l'amour.